Est-ce que vous pourriez penser à une chanson ou un moment d'une comédie musicale que vous aimez particulièrement, Pierre Guillois ?
J'aime beaucoup Follies de Sondheim. J'ai du mal à me souvenir d'un titre précis, mais Follies, c'est quand même une folie.
Pourquoi vous avez une image en tête ?
Je l'ai vu à Londres, dans une très très belle production, avec ce théâtre, dans le théâtre, ces vieux acteurs, ces vieilles actrices qui viennent sur le lieu, sur ce cabaret qui va fermer, qui va être transformé en bureau. Et en plus, c'est vraiment une pièce presque tchékovienne, quoi. C'est des bilans de vie absolument catastrophiques. Et tout ça dans un décorum esthétique et musical très, très Broadway, quoi. Donc c'est très, très étonnant. Très beau, très triste, avec des fantômes comme ça, des fantômes des jeunes gens qui apparaissent. C'est extraordinaire.
Reinhard Wagner, est-ce que vous avez en tête une comédie musicale que vous aimez particulièrement ?
J'aime bien les comédies musicales, celles que je connais de Sondheim. Je ne suis pas très comédie musicale en fait, plutôt opéra. Mais j'aime bien les comédies musicales de Sondheim, évidemment... celle de Bernstein qu'il a écrite d'ailleurs avec Sondheim, West Side Story. Mais une chanson particulière, il y a dans Little Night Music, il y a une chanson dont je me souviens plus le titre, qui est très 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 belle, qui est très inspirante et très inspirée. Voilà. Mais moi, je connais pas bien les comédies musicales. Je connais de manière un peu générale, mais j'ai jamais vraiment parcouru les partitions comme je le ferais avec des opéras. Je suis plutôt opéra et même plutôt musique contemporaine.
Samu Bretman, vous connaissez bien les comédies musicales ?
Bien, je dirais pas ça, mais celles que je connais, je les connais bien, parce que je suis un peu obsessionnelle quand j'aime bien un truc, donc je l'écoute à peu près 2000 fois. J'ai eu la chance de le jouer, et de le chanter assez mal d'ailleurs, parce que je chante pas super bien. Rocky Horror Show, moi je dirais Rocky Horror Picture Show. J'ai joué la pièce, la comédie musicale. Moi, il y a deux chansons qui me viennent à l'esprit, c'est There's a Light, Janet et Brad qui vont dans le château du transvestite, et I'm Just a Sweet Transvestite, donc du travesti qui le maître du château.
Et vous avez l'air
maîtresse,
en tête,
dire. Hein?
Vous avez l'air en tête.
Ah, There's a Light. Over at the Frankenstein place, there's a light. Voilà, c'est ça. Mais c'est mieux chanté que ça.
Est-ce qu'il y a des moments particuliers de la vie où vous aimeriez répondre en chanson parfois ?
Bien sûr, tout le temps. Mais bien sûr, tout le temps. Et alors, quand on est en train de travailler une comédie musicale particulièrement, dès que il y a un mot qui sonne comme un mot du spectacle, et ben, tout de suite, ça part forcément dedans. Mais ça c'est valable aussi pour n'importe quelle pièce de théâtre. Dès qu'on dit un mot et qu'on a la sensation qu'il sort du spectacle, eh bien, on enchaîne sur le reste, quoi. Quand on est fatigué, on dit toujours qu'il faut qu'on récupère. Et comme il y a une chanson qui dit qu'il faut que je récupère, elle me fait beaucoup rire parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez d'heures de sommeil. Donc voilà. Mais c'est propre à chaque moment. Et ouais, je pense qu'on pourrait faire ça en permanence. Mais je me demande si sur Instagram, il n'y a pas un mec qui fait ça. C'est assez extraordinaire, dans la rue. Donc, quand on lui pose une question ou je sais pas quoi, il répond en... Tout à coup, ça devient une comédie musicale, c'est assez génial.
Il est 19h sur France Culture et parler c'est marcher devant soi, disait Raymond Queneau. La langue de Zazie dans le métro, qui paraît en 1959, fait que la jeune adolescente marche bien devant elle. Et encore plus, ses mots courts sautent les obstacles, ses mots pas très sages, pas toujours polis, foncent droit dans la vie. Zabou Bretman adapte Zazie dans le métro sur scène et imagine une comédie musicale avec la complicité du compositeur Reinhard Wagner. Zazie, que sa mère confie à son oncle Gabriel pour le week-end à Paris, arpente la ville des années 60, rêve du métro mais il est en grève, et se retrouve à faire des rencontres plus ou moins heureuses. Sur scène, 7 comédiens et 6 musiciens, et surtout Zazie qui, par sa présence et sa pensée, lance des mots comme des petites bombes en l'air, au milieu du bien-parler, du bien-penser, du tiède. En toile de fond, il y a la violence d'une société où Zazie est obligée de repousser les avances de son père et de répondre à un autre adulte insistant « Tu te prends pour quoi, raclure, range ta bestiole ?» Il y a l'oncle dont l'homosexualité est l'objet de moqueries, et Zazie qui, elle, questionne tout sans gêne et semble dire « Laissez-nous être nous-mêmes ». Dans le spectacle « Dans ton cœur », Pierre Guillois met en scène la compagnie de cirque « Accor et Accro ». Ici, il y a un coup de foudre, un amour, et puis une routine et des disputes. Les musiciens sont aussi sur scène, et Pierre Guillois se sert de la virtuosité des corps des interprètes pour en faire des créatures qui volent, se croisent dans les airs, marchent la tête dans une machine à laver ou se retrouvent à 10 mètres du sol dans un cabaret. Le rapport au corps et à l'espace devient magique, et là aussi, il y a des trouées dans le réel. Si parler, c'est marcher devant soi, ici on marche devant, mais aussi derrière ou sur les côtés. Ce sont des spectacles cousus humains qui ne respectent pas tout le temps la gravité, font voler les corps, les mots, avec une précision du rythme qui fait que quand on sort, il est très étrange de ne pas se mettre à danser ou chanter ses sentiments pour être au plus près de la vérité. Nous sommes avec la metteuse en scène et comédienne Zabou Bretman et le compositeur Reinhard Wagner. Leur spectacle « Zazie dans le métro » part en tournée après avoir joué à Amiens et à Bobigny. Le spectacle sera en avril à Antibes et Fribourg et en mai à Anglet, La Rochelle et Villeurbanne. Nous sommes avec le comédien et metteur en scène Pierre Guillois. Dans ton cœur, le spectacle créé avec la compagnie Accor et Accro est présenté au Théâtre du Rond-Point du 25 avril au 26 mai à Paris. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. On commence par la voix de Raymond Queneau au micro de Claudine Chaunet en 1959, alors que Zazie dans le métro vient de paraître.
Cette Zazie est une petite fille qui se promène dans Paris, qui est extrêmement zazou, bien qu'elle soit, dirais-je, encore, l'âge, ou encore à l'âge où on zozote. Et c'est une petite fille qui est extrêmement délurée. J'ai demandé à Raymond Queneau pourquoi il avait choisi une petite fille qui parle un langage de grenadier et enfin à qui arrive des aventures, elle a peut-être 12 ou 13 ans, qui semble, a priori, nettement au-dessus de son âge.
Mais je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui s'est imposée conformément à son caractère.
Et pourquoi vous l'avez rencontrée, une Zazie comme ça, aussi
délurée ? Non, je ne pense pas, mais enfin j'en ai rencontré des fragments à droite et à gauche.
C'est pas un roman à clé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman qui représente une espèce de caricature, enfin de...
Ah, je ne vois rien de caricatural. Ça me paraît Zazie, en tout cas, elle-même un personnage très naturel.
Bah, la façon dont les gens s'expriment est quelquefois un petit peu troublante pour le lecteur habitué à l'Académie française.
Ouais, il s'exprime comme vous et moi, quand on n'est pas devant le micro, non ?
Oh bah écoutez, je ne voudrais pas donner un choix d'épithète, mais enfin, il y a tout de même une abondance de locutions assez vertes.
Oh, c'est comme ça que tout le monde parle.
Bon, eh bien, admettons. Alors, vous allez nous lire un petit passage que nous avons choisi soigneusement, non pas édulcoré, parce qu'il est bien sûr tel quel, mais enfin, dans les passages lisibles au micro. Alors, c'est le moment, je crois, où Zazie, qui a fait une fugue, qui a échappé à la surveillance de son oncle, se balade toute seule aux environs de la foire aux puces, et elle rencontre un monsieur dont on saura plus tard que c'est un sévère inspecteur de police qui se dit « Qu'est-ce que fait là cette petite fille toute seule ?»
C'est ça. Ne voulant pas montrer son enthousiasme à l'idée de se taper un caco-calo, Zazie se mit à considérer gravement la foule qui, de l'autre côté de la chaussée, se canalisait entre deux rangées d'éventaires. « Qu'est-ce qu'ils foutent, tous ces gens ?» demanda-t-elle. « Ils vont à la foire aux puces, » dit le type. « Ou plutôt, c'est la foire aux puces qui va à eux, car elle commence là. »« Ah, la foire aux puces, » dit Zazie, de l'air de quelqu'un qui veut pas se laisser épater. « C'est là où on en trouve des Rembrandts pour pas cher. Ensuite, on les revend à Anna Merlot et on n'a pas perdu sa journée. » Il n'y a pas que des Rembrandts, dit le type. Il y a aussi des semelles hygiéniques, de la lavande, des clous et même des vestes qui n'ont pas été portées.
La langue de Zazie dans le métro, Zabou Bretman, en 1959, ça,
ça choque pas mal. Enfin, on s'en rend compte en écoutant, ouais. En tout cas,
mais ça choque. Mais ça choque tout court, en fait. Je crois que ça choque encore. Ces réponses sont évidemment, les réponses de Raymond Queneau sont évidemment brillantes, quoi. Brillantes de simplicité, de lucidité. Il est absolument formidable. J'adore quand il dit, ben, c'est la façon dont on parle, vous et moi, quand on n'est pas devant le micro. C'est absolument merveilleux. C'est exactement ça. Et quand il dit, c'est elle qui est venue à moi, je trouve ça absolument formidable. Il a même écrit, il s'est amusé à faire un petit dialogue entre lui et Zazie, dans ses carnets. Il a fait un dialogue entre lui et Zazie, et Zazie lui dit « Mais alors, si tu dis que je lève le bras, je dois lever le bras ?» Il dit « Bah oui, mais moi j'ai pas envie. » donc il va très très loin dans son... Ouais, dans son... C'est-à-dire un principe. Non, c'est pas un principe, parce qu'il le dit très bien. Et quand elle parle de caricature, la journaliste, non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est drôle, moi j'en ai beaucoup travaillé là-dessus avec les comédiens, en disant « Jamais de caricature, jamais, jamais, jamais !» Si on n'est pas dans le sentiment, on le trahit complètement. C'est pas parce qu'il y a une apparence loufoque. Cette apparence-là, elle permet, je pense, justement, elle permet de raconter des choses qu'on ne raconte pas ou qu'on n'ose pas raconter. Et les gens, aujourd'hui, ne savent plus bien de quoi parle Zazie vraiment. Mais on l'entend aujourd'hui, je pense que parce que c'est aujourd'hui qu'on l'entend plus facilement. À l'époque, on l'entendait, il se passait les mêmes choses et on n'osait pas trop, peut-être s'en souvenir, en tout cas.
Et comment vous décririez sa langue, justement, parce que souvent on a en tête ce franc-parler, son argot, il y a pas mal de gros mots, en tout cas...
C'est très artistique, il y a des accumulations, hein, comme faisait César, enfin, il fait des... Dans les gros mots, en grec, on disait une crase, mais enfin, je veux dire, il met tout en même temps, parce que il y a aussi... Tout ce qu'elle veut dire, tout ce qu'on ne doit pas dire, tout ce qu'on dit en même temps, au même moment. Donc ça, c'est la pataphysique aussi. Hein. Tout existe dans tout et réciproquement. Tout est là en même temps. Donc parfois, les mots se précipitent et se jettent comme ça ou sont jetés comme ça. Et il y a quelque chose de très joyeux dans ce langage avec cette liberté et cette légèreté apparente. Donc c'est extrêmement fouillé, extrêmement travaillé. Mais c'était bien d'entendre cette archive, parce que c'est ça ce qu'il fait, c'est comme il dit. C'est-à-dire que, tranquillement, il dit non, c'est pas de la caricature, on est comme ça, non? Il parle même à la journaliste en disant, bon, enfin, vous savez bien que vous êtes comme ça aussi, que vous dites des choses comme ça. C'est grossier, c'est truculent, ça n'est jamais vulgaire, c'est l'opposé de la vulgarité. Et c'est très philosophique et très recherché, mais il a besoin de cette apparence-là pour pouvoir mettre et raconter beaucoup de choses du social de l'époque. Et c'est pour ça que c'est resté dans cette époque-là, d'ailleurs, dans le spectacle, parce que ça nous permet aussi de voir ce qui a changé et de voir ce qui n'a pas beaucoup changé.
Et Raymond Queneau disait, c'est Zazie qui est arrivée à moi. Vous, Abou Bretman, depuis combien de temps elle est arrivée dans votre vie, Zazie?
Bah, je suis née en même temps qu'elle, donc ça fait depuis le début. Hein, donc voilà. Zazie, ou dit Zazou, parce que c'est vrai que c'est un terme qui s'employait. Moi, Zazie, on m'a appelée aussi comme ça. Maintenant, je m'appelle Zabou, mais on m'appelait aussi Zazie, enfin mes parents. Ça faisait partie d'une culture. Alors, ça a été... C'est fait partie de ma culture familiale. Et en fait, Zazie, c'est... Les lecteurs de Zazie, l'enthousiasme fou, parce que Raymond Queneau s'y attendait pas du tout, l'enthousiasme dingue, est dû aussi à la multiplicité des gens et au genre des gens. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Ça va être du môme, que ça va amuser, qui va pas comprendre tous les degrés de lecture, à ceux qui vont s'amuser, qui lisent pas beaucoup, mais qui vont lire ce bouquin-là, et à des gens plus intellectuels. Donc, en fait, c'est comme les contes pour enfants, dès qu'on fouille un peu, il y a de tout quoi dedans. Et il y a beaucoup de choses extrêmement brillantes et d'analyse de la société d'une manière délicate, drôle et encore une fois pataphysique, parce qu'il faut bien que les choses existent. Et c'est très intéressant de voir que la fantaisie permet, au contraire, d'appuyer et d'aller voir très loin dans l'être humain, beaucoup plus loin que quand c'est juste plaqué comme ça, ou quand on est moralisateur, ou quand on enfonce les portes ouvertes. Ça n'a pas d'intérêt. Et tout c'est pas caché, mais en tout cas, c'est en tout cas permis d'aller raconter beaucoup de choses, parce qu'il y a cette façon, cette forme-là. La forme va servir un fond qui est... Oui, quand on dit t'as rajouté des choses, non, ce sont bien ces dialogues, hein, y a pas de problème.
Et la forme que vous avez pensée là, c'est la comédie musicale?
Ah oui, parce que Là, on en a beaucoup parlé avec Reinhardt, parce que Reinhard Wagner aussi, c'est un grand compositeur, et c'est aussi quelqu'un qui connaît très très bien la littérature et la poésie.
Et vous aviez déjà, en 2019, fait une adaptation de Poil de Carotte ensemble.
Voilà, exactement. Et cette manière de comprendre ce dont on parle, de comprendre le roman, de comprendre Raymond Queneau, c'était pour moi fondamental. Si Reinhardt n'avait pas été vraiment sur les mots, autant que sur la musique, genre on n'aurait jamais pu faire ce travail-là. Jamais ce spectacle-là aurait été comme ça. Il connaît aussi bien Raymond Queneau que moi, peut-être mieux. Il connaît extrêmement bien. Et là, ça a été magique parce qu'on a pu mettre à l'intérieur des chansons. Voilà, pour le coup, que j'ai écrites, enfin, les paroles, mais avec l'aide aussi de Reinhardt, qui peuvent imprimer aussi parfois de la mélancolie. Il y en a beaucoup, de mélancolie, de la noirceur, de la drôlerie dans des choses curieuses. C'est aussi, il y a aussi cet endroit de permission. C'est-à-dire que on peut, c'est musical, c'est chanté, donc on peut dire des choses plus facilement. C'est aussi une autre forme possible de pour raconter des choses difficiles et raconter aussi ce qui n'est pas du dialogue. C'est-à-dire tout ce qui est dans le roman, qui n'est pas dialogué. Il a bien fallu raconter cette façon d'être et de parler. Et là, c'est Reinhardt qui a... Et on était tellement d'accord tout le temps sur les choses, c'était impressionnant quand même.
Reinhard Wagner, comment vous... Parce que là, en parlant de la langue de Queneau et de Zazie, on parle déjà de rythme aussi. Comment vous êtes imprégné à la fois de cette langue et des chansons écrites ensuite par Zabou Breitman pour commencer à imaginer la musique et les chansons?
En fait, je ne sais pas bien répondre à ce genre de questions parce que je me mets au piano, ou pas d'ailleurs, parce que les mélodies peuvent me venir en fonction du texte. La plupart du temps, c'est en fonction du texte, parce que le texte a une métrique déjà. Donc, j'utilise cette métrique. Donc, c'est pour ça que je demande souvent... quand je travaille sur des textes, et avec Zabou c'était le cas, de pas s'inquiéter de la métrique. En général, les gens qui écrivent des chansons, j'ai remarqué ça, ils vous amènent un texte avec 8 pieds, 8 ou 4 ou 4. Et il y a déjà, ça implique déjà pour moi une rythmique qui me gêne. Je préfère qu'il y ait 8, je dis n'importe quoi, 8 et demi, 9, 12, et ça ne me gêne pas parce que après, au contraire, ça va m'amener rythmiquement à faire quelque chose d'un petit peu différent. Souvent, quand j'ai travaillé avec un auteur avec qui j'ai beaucoup écrit de chansons et qui m'a appris ça en fait, parce que lui il m'envoyait 10 pages de texte pour faire une chanson pour laquelle on avait gardé peut-être 10 lignes. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu mets pas dans l'ordre les couplets, les refrains? C'est vieux, hein. Et il m'a dit, mais t'es assez musicien pour trouver où est le refrain, où est le couplet, c'est pas à moi de le faire. et ça m'a marqué parce que très très souvent, voilà, les paroliers font un pré-travail. Je dis parolier parce que justement, c'est la différence entre un auteur et un parolier. Un auteur, c'est quelqu'un qui vous amène 12 pages, débrouille-toi. Un parolier, il va essayer de cadrer quelque chose. Donc, il y a une liberté chez l'auteur. Et ce qu'il y a chez Queneau, il y a ça. Et comme Zabou a travaillé aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a travaillé les textes des chansons en fonction des textes de Queneau, mais qu'il a fallu évidemment un petit peu arranger. Je mets les guillemets pour que ça devienne un petit peu, que ce soit pas trop abstrait, mais et la musique fait le lien avec tout ça. Donc moi, comment je fais, je sais pas. Ce que je fais souvent, la plupart du temps, c'est que je lis beaucoup le texte, je m'imprègne du texte, et je l'apprends presque par cœur, et la musique vient. Et ensuite, il suffit plus que d'écrire la musique. Presque c'est fait déjà. J'exagère à peine, quoi. Les notes viennent en fonction des... Ça, c'est une chanson. Hein. Je chante mal et rapidement, mais tout d'un coup, ces notes s'imposent avec le texte. Et j'aurais pas forcément écrit ces notes-là s'il n'y avait pas le texte. J'aurais écrit autre chose. C'est le propre d'une chanson, d'ailleurs. c'est qu'il y a des paroles sur les notes.
Mais c'est ce que me disait Reinhardt. Oui, il m'a dit, mais vas-y, autorise-toi, parce que je suis un peu classique, donc j'avais un côté un peu classique, donc effectivement, tout bien mille, quatrain, sonnet, enfin, il y avait un truc comme ça dans le sonnet, il y avait tercel, quatrain, enfin bon, tout propre, quoi. Et il m'a dit, mais tu n'es pas obligé de... Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'ai fait des choses parfois comme ça, et Reinhardt me disait, ok, donc ça marche. Et puis après, je lui disais, mais je trouve qu'il me manque un truc là quand même. Il me disait, ok, d'accord. Et donc on faisait des allers-retours en fait. Et pour ce que disait Reinhardt sur le fait d'apprendre par cœur, pendant l'adaptation, je l'ai lu et relu, je sais pas, 10 fois. Et quand il manquait quelque chose, je me disais, mais est-ce qu'on raconte bien ce que c'est? Je me disais, parce qu'évidemment, c'est coupé quand même beaucoup. Et tout à coup, je me disais, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je me retapais tout le bouquin pour rajouter une phrase. Parce que oui, c'est vrai, il faut s'imprégner complètement à ce moment-là pour l'adaptation. Puis une adaptation, ça reste une vision d'une seule ou de deux personnes, en l'occurrence. Mais pas, enfin, c'est pas évident quoi, de dire c'est ça qu'il faut faire, j'en sais rien. En tout cas, c'est ça qu'il y a.
Oui, oui.
Et on parlait de la vivacité et l'humour aussi de Zazie, mais vous disiez il y a aussi une part sombre, et c'est vrai que on sent tout de suite qu'on va parler aussi de violence entre les êtres qu'elle va rencontrer et cette jeune adolescente. Au tout début, déjà, ça commence par sa mère qui la laisse à son oncle Gabriel pour éviter d'être violée par toute la famille, dit-elle. Et on comprend vite qu'elle l'a laissée chez l'oncle Gabriel parce que l'oncle Gabriel est homosexuel et qu'elle considère qu'il n'arrivera rien. Donc ça, c'est encore une autre chose qui arrive ensuite. Mais donc il y a beaucoup de couches comme ça, de choses qui sont incomprises par les uns et les autres et de violence de la société. Et on va écouter un extrait, une chanson, quand Zazie parle des papouilles osées de son père.
Dire que maman pouvait pas blairer papa. Alors papa, ça l'avait rendu triste et il s'était mis à picoler. Alors quand il était dans ces états-là, fallait se garer de lui parce que même le chat y aurait passé. Comme dans la chanson. Papa, il était donc tout seul à la maison. Tout seul, ou plutôt il se croyait tout seul. Attendez, vous allez comprendre. Je rentre donc. Faut dire qu'il était noir comme une vache, papa. Et voilà qu'il se met à m'embrasser partout. Rien de mal, je permets, c'est mon papa après tout. Mais voilà, il est rond, comme une queue de pelle à charbon. Et je comprends dans ses yeux ce qu'il veut faire, le vieux vicieux. Des papouilles osées, tout partout sur ma pomme. Mais je suis pas disposée à subir ça d'un homme. Des papouilles osées, tout partout sur ma pomme. Mais je suis pas disposée à subir ça d'un homme. Même si c'est mon papa. J'obéirai pas, même si c'est mon papa. Papa, 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 j'obéirai pas.
C'est la première chanson qu'on a écrite, hein, c'est ça.
Moi, j'ai écrit
la première chanson. Ouais.
C'était un enregistrement pour l'émission 42e rue sur France Musique.
Ouais, c'est la première. Mais c'est-à-dire que moi, j'adorais et j'adore le fait que cette petite fille dise « faut dire non ». Parce que c'est pas dedans, c'est pas dans le bouquin qu'elles disent « faut dire non ». Mais les papouilles osées, oui. Je veux dire, les papouilles osées, ça s'appelle. Donc, et elle dit « faut dire non ». Non, j'obéirai pas. Et la maman l'a sauvée, donc on coupe la tête du père. Elle dit, heureusement, maman était là. Elle dit, c'est pas une bonne mère, ça.
Donc, il a au moins torsédé son père.
Ah ouais. Oui, quand même. Elle dit, ouais, parce qu'il y a un autre mec qui s'est mis à tourner autour d'elle. Et maman, elle a dit, je peux pas les tuer tous quand même, ça aurait l'air drôle. Donc, il y a à l'époque, il y a la peine de mort. À l'époque, il y a l'homosexualité est un crime. Enfin, oui, c'est dépénalisé en 81, donc c'est quand même très longtemps après. Et ils vont en taule, hein, comme ça, quand on est. Donc, c'est pour ça qu'il fait gaffe, quoi.
Et Zazie demande, c'est quoi un hormosexuel?
Hormosexuel. Un hormo. Alors un hormo, il y a aussi anormal dedans, on entend ça. D'ailleurs, à un moment donné, je ne l'ai pas mis et j'hésite tout le temps. Je me dis, oh, je devrais le mettre. Mais je ne peux pas tout mettre, mais c'est tellement incroyable tout ce qu'il écrit. À un moment donné, elle dit, alors c'est quoi un hormo? Et il y a Marceline, elle dit, anormal. Elle dit, non, un hormo. Et donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est... Et elle pose toutes les questions. Et elle demande, mais c'est quoi? Et y a la veuve, moi, qui lui dit, ma pauvre enfant, à un moment donné, parce que... Et au moment où elle découvre que son oncle chante Gabriella et qu'il est
dans un cabaret.
Dans un cabaret,
Gabriel
dans
et Gabriella.
Gabriel et Gabriella, danseuse de charme. Et elle le trouve absolument formidable. Mais dans le roman, c'est vrai qu'à partir du moment où elle, ils reviennent du cabaret au Mont-de-Piété, dont il dit que c'est la plus belle boîte de tente de tout Paris, eh bien, quand elle revient du cabaret, plus jamais ne pose la question dans le livre. Plus jamais. Parce que c'est plus une question. Ça n'a pas d'importance. Et c'est très beau ce que dit Charles le taxi. Elle lui dit, mais c'est quoi alors un homosexuel, c'est un homme qui se met du parfum? Parce que lui, il se met barbouze de chez Fior. Et Charles lui dit, voilà, c'est ça, t'as compris. Et alors elle dit, il n'y a pas de quoi aller en prison. Et lui dit, sûr que non. Et en fait, il y a une sorte de mini résumé de ce que pense une partie, heureusement, de la population à l'époque. Et ça, c'est formidable. C'est raison, quand même une des raisons pour laquelle il s'est barré des surréalistes, quand même, qui était très homophobe. Donc, lui, s'est barré pour ça.
Et c'est vrai que le genre est mouvant. Même oui. Marceline devient Marcel.
Ah oui.
Il y a quelque chose à cet endroit-là qui est complètement impossible. Mmh.
Sur les identités, ouais, c'est aussi, ça bouge tout le temps, ouais. Mmh. Sur l'identité, je pense que j'allais dire, c'est un kiff pour un psychanalyste.
Et vous parliez de la composition musicale, Reinhard Wagner. Les musiciens, ils sont sur scène.
Oui.
Et ils font aussi partie du récit parce que, on les voit jouer, évidemment.
Oui, ils ont quelques interventions que Zabou leur a fait faire. Et ils sont sur scène, bien sûr. Ils sont six. J'avais droit à sept au début, puis on m'en a retiré un. Donc j'en ai eu six.
Mais il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que parce que j'avais toutes les maquettes au piano, donc ils m'envoyaient.
Ouais.
Et puis, au bout d'un moment, je vois bien qu'il n'y a pas de clavier, enfin, il n'y a pas de piano.
Ouais, j'ai pas voulu mettre de piano. J'aime bien, enfin là c'était particulier, j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Parce que tout le monde me dit, il faut un piano.
Un
et le
Zazie.
Fait de me dire ça, c'est un
oui,
peu,
Zazie, ouais.
C'est un peu mon côté Zazie. Et ben non, justement, mon cul, je vais pas en mettre. Je vais pas mettre de piano. Et du coup, le piano, comme tout le monde dit, c'est le roi des instruments. Vous avez les basses, les aigus, les médiums. Vous avez tout. Alors si on est tout seul sur scène, souvent, quand on fait des spectacles musicaux, les gens disent, on va plutôt mettre un piano. Alors, ce qui est souvent un problème, parce qu'il est c'est un petit piano droit pas très bon, soit il est pas accordé, soit pour le faire accorder ça va coûter très cher, soit pour faire venir un piano plus gros ça va coûter encore plus cher. Donc le mieux c'est de prendre un violon ou un violoncelle, comme ça c'est plus simple et il s'accorde de même. Mais le fait cette formation, je la voulais un peu cristalline en fait. Donc violon, violoncelle. Vibraphone évidemment, trompette, accordéon, c'est le même, clarinette et basse. Donc voilà, ça c'est un peu, c'est pas si hétéroclite que ça, mais pour des comédies musicales, c'est pas souvent. Voilà, où
ils viennent pas des mêmes
univers. Ouais, des univers très différents, des musiciens très très divers. Ça va du classique pour Marie Zanet qui est violoniste à l'Opéra de Liège, Ambre qui on va tous les citer du coup. Ambre violoncelle.
Et donc il y a ces six musiciens et il y a sept comédiens. Combien de personnages et de changements de costumes vous avez
fait? C'est énorme. La Nolwenn, qui est la billeuse sur le spectacle, qui a un boulot de fou. Je pense qu'il y a à peu près 130 changements. Je sais qu'il y a 50 personnages. Il y a plus de 50 personnages. Il y a un des comédiens, Jean Furst, qui fait Marceline, qui a droit, lui, je pense, c'est 14 changements, ouais. C'est chaud, quoi. C'est chaud bouillant. Zazie change pas. Et si elle fait une vieille dame, à un moment donné.
Et c'est vous qui signez la scénographie, Zabou Breitman?
Oui, c'est la première fois. J'étais contente.
On sent que vous aimez l'artisanat de ça.
Oui. Ah oui, je voulais. On m'a dit, ah mais oui, mais tu vas mettre de la vidéo alors pour ça. J'ai dit, mais non. Je veux que tout soit mécanique. J'aime les choses. J'adore. C'est magique, le théâtre. Donc il y a tapis roulant, et puis il y a un journal lumineux avec les trucs, les mots qui défilent. Il y a évidemment les toiles pour une des toiles on voit derrière une toile qui a été peinte par un peintre, un plan de Paris. Il y a un grand plan de métro évidemment. C'est des échafaudages pour mettre les musiciens dedans. Et il y a un grand escalier tout simple. Il y a très peu, ils sont tout petits et même les l'étoile, ce qu'elle représente, est surdimensionnée. C'est pas les bonnes proportions. Et il y a quelque chose comme ça dans Zazie dans le métro. Les proportions sont un peu fausses. On dirait que les gens sont à la fois loin et près. On dirait, il y a quelque chose comme ça. Je me suis dit, pour rendre la pâte à physique, j'aimais bien qu'on se désaxe aussi en permanence, quoi.
On va écouter une autre chanson extraite de Zazie dans le métro.
Moi, tonton, je veux aller à l'école jusqu'à 65 ans.
Jusqu'à 65 ans ?
Oui, je veux être institutrice.
C'est pas un mauvais métier, il y a la retraite.
Retraite mon cul ! Moi, c'est pas pour la retraite que je veux être institutrice. C'est pour faire chier les mômes. Ceux qui auront mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans.
Eh ben...
Toujours des gosses à emmerder, je leur ferai lécher le parquet, manger l'éponge du tableau noir, coller leur tête dans l'urinoir. L'hiver, j'aurai des bottes pointues pour leur enfoncer dans le...
Zazie.
J'aurai des éperons grands comme ça pour leur larder la peau du derche. Je leur enfoncerai des combats dans le derrière. Faut pas qu'on me cherche.
Tu sais, Zazie, l'éducation ne va pas dans cette direction. On va vers la douceur, c'est écrit dans le journal. Faut préférer le bonheur, l'harmonie, la morale.
Jamais de la vie.
D'ici 20 ans, Zazie, il n'y en aura plus d'institutrices remplacées par l'électronique. Des trucs comme ça, c'était écrit dans le journal. Suis d'aujourd'hui.
Alors, je serai astronaute.
Voilà un métier qu'il est bien.
Pour aller faire chier les martiens.
Mais enfin, Zazie, tu pourrais pas être un peu plus polie?
Politesse, mon cul!
La violence, ma petite chérie, doit toujours être évitée dans les rapports humains. Elle est éminemment condamnable.
Condamnable, mon cul.
Tu parles comme ça chez toi?
Ici et là-bas, ça fait deux.
En tout cas, ce serait bien que t'arrêtes de dire des gros mots.
Et encore? T'as rien entendu? Gros cochon, salaud, merde alors, merde et merde, et snob, mon cul. Je m'en fous, Napoléon, de son chapeau à la con. Je t'emmerde, vieux vicieux, sacré bavard de mes deux, enfoiré, salaud, fumier, ça va chier. M'emmerde plus avec tes vis lardises, dégueulasse, me fais pas chier, ça tire. Cochon, salaud, merde alors, merde et merde et snob mon cul. Je m'en fous de Napoléon, de son chapeau à la con. Tu déconnes, t'as de cave, gougnafier, vieux bourrin. T'as pas compris, fleur de nave, vous m'emmerdez à la fin. La vieille taupe et le vieux débris, c'est pas fini vos conneries. Sacré cloche, quitte nature, t'es trop moche, t'es trop moche. Salaud complet, gros vislard, je vous cracherai sur la gueule. Vieux crado, y'en a marre de ces cochons, c'est sexuel. Pas moyen d'être tranquille dans ce bordel. J'en peux plus, j'en peux plus. Politesse mon cul. J'en peux plus, j'en peux plus. Politesse mon cul. Politesse mon cul. Politesse mon cul.
Tous les mots, vous le disiez, Zabou Breitman, sont...
Oui.
Dans le livre de Raymond Queneau.
Voilà, on a tous répertorié en fait. Et après, on a fait une chanson. Mais Reinhardt, on a retravaillé des choses.
Après, oui, après pour.
Voilà, mais ça, oui, c'est, ils sont tous dedans. Moi, j'ai pas inventé Raffinerie de caca que je trouve particulièrement chouette, quoi.
Ah oui, j'ai trouvé sûr.
Et puis de faire il y a Politesse mon cul qui défile comme ça sur le journal lumineux. Je trouve ça assez bien, parce que c'est, bon, je sais pas dans les scolaires ce que ça va donner, mais ça va être un peu, je souhaite bon courage aux instits et aux profs, ouais.
Et qu'est-ce que ça veut dire à votre avis quand à la fin elle dit j'ai vieilli à sa mère qu'elle retrouve?
Elle est adolescente, elle a 12 ans, 12 ans et demi. Je pense qu'elle voit que on peut pas dire mon cul en fait. C'est juste ça, quoi. Plus aucun ne dit ça. Plus aucun. Il y a beaucoup de frustration. Elle voit des adultes extrêmement frustrés, quand même, tout au long, quoi. Qui ne sont pas là où ils devraient être. Qui sont dans la composition. Qui sont dans le mensonge. Donc, elle voit ça. Je pense que, oui, elle a vieilli, c'est sûr. Elle a vu quelque chose. Oui, on peut pas dire mon cul, non, tout le temps. Non, c'est pas possible, malheureusement.
revoir, monsieur.
Alors, t'étais bien amusé?
Comme ça.
T'as vu le métro?
Non.
Alors, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai vieilli.
Ça, c'était un extrait de Zazie dans le métro, Louis Malle, en 1960. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes donc avec la comédienne metteuse en scène Zabou Breitman, le compositeur Reinhard Wagner, et nous allons parler avec le comédien et metteur en scène Pierre Guillois de son spectacle Dans ton cœur. Extrait du spectacle Dans ton cœur, de la musique. Et avant de parler du spectacle, on va poursuivre en écoutant la voix de la circographe, comme elle dit, et metteuse en scène, Maroussia Diaz-Verbeek, au micro de Marie Richeux, en 2019, parler du cirque.
J'ai découvert qu'il y avait une loi qui avait interdit la parole au cirque, en 1806 et 1807.
Aux artistes sur la piste.
Aux artistes sur la piste. Pour vraiment, en fait, pour le différencier du théâtre et pas le concurrencer des théâtres privilégiés. C'est le cirque est un art qui a une liberté assez incroyable, même au niveau de sa définition. Historiquement, il a eu aucune obligation d'être ceci ou cela. Il a eu l'obligation, par contre, de ne pas être du théâtre et donc de ne pas utiliser de la parole.
Et à l'exception du monsieur Loyal qui introduit et qui dit « Mesdames, messieurs, place au cirque ».
Voilà, alors monsieur Loyal, il vient après quand ce décret qui dure une cinquantaine d'années s'arrête. Et effectivement, cette parole, quand monsieur Loyal il arrive, elle est toujours périphérique finalement. Elle n'arrive jamais à l'intérieur du numéro de cirque. La parole finira jamais par être le centre, puisque ma lecture, c'est que cette interdiction, elle a agi comme un moule finalement sur le cirque qui a gardé cette trace et qui s'est développée sur tout ce qu'il y a d'autre que la parole, c'est-à-dire le corps, l'exploit, les animaux, la relation avec l'enfance, les autres langues, les pays, c'est-à-dire que c'est un spectacle, le spectacle de cirque, ce sont des spectacles qui peuvent vraiment bouger dans tous les pays du monde sans la barrière de la langue. Donc en fait, ça a fini par construire les spécificités, enfin ce que moi j'imagine être les spécificités de cet art-là. Donc la question de la parole, elle est... plus je m'y intéresse, plus elle finit par être centrale par son absence, quelque part.
Vous saviez, Pierre Guillois, qu'il y avait eu cette loi qui interdisait la parole au cirque?
Pas du tout.
Moi, je me demandais, en tant qu'homme de théâtre, metteur en scène, est-ce que, en quoi c'était excitant de travailler avec des acrobates qui, justement, n'ont pas forcément les mots en premier? Alors, dans le spectacle Dans ton cœur, il y a quand même quelques mots et quelques échanges, mais très peu. Oui. Qu'est-ce qui vous excitait dans la rencontre avec eux?
La première chose qui m'a excité, c'est parce qu'ils m'ont dit que c'était une création sous chapiteau. Parce que c'était vraiment leur... ils avaient déjà créé un spectacle sous chapiteau, Klaxon. Ils ont commencé dans la rue. Ils ont vraiment... C'est une compagnie incroyable. Ils ont commencé comme ça. Ils ont fait des économies. Après, ils ont créé un spectacle en salle qui a beaucoup tourné, qui a eu un énorme succès. Et grâce à l'argent, là, ils ont pu faire un emprunt et acheter leur chapiteau. Donc, c'est vraiment une construction comme ça. Et en fait, ils avaient fait des créations collectives. Et là, ils voulaient un metteur en scène, en fait. Et le fait qu'ils me disent chapiteau, en fait. Moi, j'avais déjà vu leur travail, mais je ne les connaissais pas du tout. Et
Accor et Accro, il s'appelle.
Voilà, Accor et Accro. Et en fait, ça m'a excité à mort, le chapiteau. Parce que vraiment, le circulaire, voilà, ça, on ne travaille jamais, enfin, rarement comme ça au théâtre. J'ai fait du bifrontal, des choses comme ça. Mais vraiment, le circulaire, le chapiteau, j'avais envie de vivre ça. C'était, ouais, c'est, parler d'excitation, ça, c'était très excitant.
Et c'est vrai que la première version, donc, en 2018, était sous chapiteau. Là, ça arrive au Théâtre du Rond-Point. J'imagine que ça va être un peu différent. Enfin, de fait, c'est pas, on n'est pas sous un chapiteau. Mais qu'est-ce que ça vous permettait dans l'écriture? Parce que donc, dans ton cœur, on suit, pour aller vite, un couple depuis sa rencontre et son coup de foudre. Ensuite, on entre dans la routine, ils ont des enfants, ils se disputent, et puis ils vont se reconquérir, peut-être. Qu'est-ce que ça permettait, ce dispositif-là, et le fait de travailler avec ces corps-là, dans l'écriture et puis le burlesque que vous aimez bien travailler? Mais j'imagine que là, ça ouvre tout un champ de possibles qui est complètement différent.
Tout à fait. Alors, j'avais créé juste avant Bigre, qui était un spectacle absolument sans parole, et ce qui a rendu, je pense, la rencontre plus aisée des deux côtés, en fait, parce qu'ils savaient que j'avais fait ça, et moi, j'avais pas du tout, du coup, j'avais pas du tout envie de les faire parler, par exemple. Et ce que disait l'historienne là, du cirque, il y a l'international qui fait partie de leur histoire, donc de toute façon, on va pas se mettre à les faire parler, c'est compliqué. Et bon, bref, j'en avais pas besoin. Et en effet, ce que j'avais envie d'explorer, c'est comment ces corps-là allaient, moi, me raconter quelque chose et comment ça allait pousser une expression. Et en fait, très vite, parce que, du coup, c'est très technique. Moi, j'y connaissais vraiment rien. J'avais vu, comme tout le monde, des spectacles de cirque. Enfin, moi, j'y connaissais vraiment rien. Et en fait, ça va très, très vite quand ils répètent leur figure. Et c'est un peu étourdissant et on se sent nul, un peu incompétent comme ça. Mais par contre, parce que tout de suite, je voyais ce que je voulais voir. Donc, je me racontais très vite des histoires avec ce que j'arrivais à voir sans justement l'analyse technique de « oh, c'est une belle vrille » ou des choses comme ça. Et du coup, très vite, moi, j'ai chopé...
Des images.
Les images et tout le narratif qui me semblait possible... De saisir. Et puis après, j'osais pas trop après comment leur demander de faire des choses ou d'autres. Au départ, j'étais presque un peu timide. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez lui le balancer jusqu'au bout de la salle ou pas? En fait, on n'ose pas tout de suite demander une chose pareille. Et puis, ils étaient extraordinaires, cette troupe d'accord et accro, ils sont extraordinaires. Donc, en fait, ils acceptaient tout. Et puis, au bout d'un moment, ils me disaient, non, ça ne va pas être possible. Mais après avoir essayé, etc. Donc, voilà, c'était vraiment très concret. On a commencé... avec des impros, on a commencé dans la matière corporelle comme ça.
Parce que c'est vrai que vous parlez d'images, Pierre Guillois, je pense au cadrage que vous faites parfois des corps et qui joue beaucoup dans la narration et l'humour, parce que quand on voit que deux jambes qui sortent ou qu'on voit une tête ou un corps qui marche avec une tête dans une machine à laver ou toutes ces choses-là, c'est une façon de cadrer les corps différemment qui nous raconte tout de suite autre chose.
Oui, et puis en effet, tout d'un coup, alors là, on a affaire à des gens qui ont des possibilités bien plus grandes que les acteurs. Donc en fait, on peut se saisir de ça pour raconter. Il y a une scène de violence, par exemple, ils peuvent se foutre des tartes dans la tronche et la personne vole à 10 mètres. C'est génial de pouvoir faire ça sur une scène. Voilà, et on ne peut pas le faire avec des acteurs.
Il y a aussi je parlais des machines à laver, du micro-ondes, l'électroménager se met aussi à voler. Et à jouer pas mal.
Oui, alors l'électroménager, très vite, on a travaillé avec ces objets du quotidien. Et moi, j'ai beaucoup aimé coller les acrobaties à des choses, à des objets qu'on connaît, dont on connaît la dimension. Parce qu'une machine à laver, on sait ce que c'est. On sait qu'un coin d'une machine à laver, c'est dangereux, par exemple. Et en fait, ça me plaisait beaucoup parce que quand on est sur une scène de théâtre, on peut très vite oublier la dimension. C'est-à-dire le risque que ça représente. Ils sont tellement doués, tellement virtuoses, on oublie à un moment donné le danger, la réalité en fait du geste. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de travailler avec le frigo, les éviers, etc. Tout ces... Bon, déjà, j'aime beaucoup les accessoires, j'ai un amour des objets. Mais du coup, confronter les acrobaties, les corps de ces hommes et de cette femme... à ces objets du quotidien que tout le monde connaît. Je trouvais ça très beau pour l'acrobatie.
Et le fait que les musiciens soient aussi sur scène et les accompagnent tout au long, comment vous avez travaillé? Comment la musique, est-ce qu'elle était là dès le départ? Est-ce que c'est petit à petit? Enfin, comment ça s'est mis tout ensemble?
Alors ça, c'est l'histoire de la compagnie, c'est très important pour eux. C'est vraiment une compagnie qui s'est définie dès le départ comme musique et cirque et qui a toujours travaillé avec des musiciens, des compositions originales. Et donc ça faisait partie du cahier des charges, et ce qui était très très heureux. Et en fait, ils ont vraiment, donc c'était une création qui s'est étalée sur toute une année. Et en fait, ils composaient, nous on était en train de composer les numéros d'acrobatie, eux ils composaient en même temps les numéros de musique. Mais les numéros d'acrobatie changeaient. Donc, dès qu'on faisait changer un petit peu, ils devaient changer la musique. Donc, les allers-retours étaient infinis jusqu'à très tard, puisque même après la première du spectacle, on a continué à changer des choses. Et du coup, les musiciens, Reinhard sait ce que c'est, devaient changer. Et parfois, on a changé intégralement des morceaux parce que du coup, la couleur de la scène avait changé. Et ça, c'était vraiment passionnant. Et en effet, ils sont sur scène, ils sont au milieu. En chapiteau, ils sont vraiment sur les mâts, etc. Et là, en version frontale, dans les théâtres, ils sont sur scène, au milieu des acrobates.
On va écouter un extrait de Dans ton cœur. Alors c'est un des extraits où ça parle un tout petit peu, mais voilà, c'est pas la majorité du spectacle. Et là, on est au cabaret et déjà il y a une dispute qui commence à émerger parce que la femme aime pas trop que son mari soit pris à partie.
Non mais ça va pas ! Elle se prend pour qui celle-là ? Tranquille, tranquille ! Il y a 500 personnes ici comme par hasard ! C'est sur toi que ça tombe !
Oui, c'est un des rares moments où ça parle en fait. Parce que là, c'est dans le public. Donc c'est ce couple qui sort au théâtre et du coup on va les retrouver parmi nous. Et l'homme va se faire, il se fait approcher par cet artiste de cabaret, mi-homme, mi-femme, dira-t-on. Et la femme va piquer une petite crise. Et après on va voir cet homme s'envoyer en l'air avec cet artiste de cabaret.
Et vous parliez tout à l'heure des choses qui changeaient, même au dernier moment pour les musiciens. Est-ce que vous, puisque justement il y a très 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 peu de texte, quelques mots dans le spectacle, mais par contre la trame narrative on la suit assez bien, mais est-ce que vous l'aviez en tête ou est-ce que tout s'est écrit avec eux au présent ?
Tout s'est écrit avec eux. En fait, quand ça commence un spectacle comme ça, les artistes vous disent, ben voilà, il y aura un numéro de double coréen, donc ça c'est un agrès particulier, il y aura un numéro de trapèze Washington, il y aura le cadre, etc. Donc vous dites, ah d'accord, il y a tout ça, il va falloir les faire rentrer dans le spectacle. Et moi, comme moi je fais du théâtre, je me dis, comment je vais pouvoir rassembler ça pour que, à un moment donné, ça forme. Alors là, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une fresque. En effet, on suit comme ça un couple, mais comment je vais arriver à intégrer ces contraintes techniques, ces numéros, ces acrobaties, que ça donne du sens et que ça permette aux deux d'en profiter, hein, à la fois à l'acrobatie d'être magnifiée par l'histoire et vice versa.
Et ils sont finalement tous entrés d'ailleurs.
Ils sont tous entrés. On a réussi à tout faire, mais parfois c'était vraiment effrayant parce qu'on trouve pas et on sait pas quoi faire d'un agrès. On dit mais qu'est-ce que je vais faire avec cet agrès?
Et vous, tout à l'heure on parlait du burlesque, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quand même oui quelque chose que vous travaillez depuis plusieurs spectacles, depuis longtemps. Qu'est-ce que le travail avec eux et avec ces corps particuliers, cette virtuosité a ouvert pour vous de nouveau?
En fait, ce que je vous disais sur le fait que tout d'un coup, il y a une expression des corps hein, qui est démultipliée, c'est vrai que faire une scène sensuelle, puisqu'on est quand même dans du spectacle familial, donc on ne va pas plus loin qu'une scène sensuelle entre l'homme et la femme, c'est ce numéro de cadre. Donc le cadre, c'est il y a un acrobate qui qui est accroché en cochon pendu et qui va balancer là, en l'occurrence, c'est un homme, un léger. Il va le faire tourner dans tous les sens. Et on profite de ce cadre pour en faire une scène qui représente l'amour, qui représente l'accouplement. Et alors, c'est sûr qu'une fois qu'on se saisit de ça, ben c'est... Et après, j'aurais pu le faire sans une version comique. Mais peut-être c'est plus fort que moi. Et donc, on a fait cette chose avec le... Parce qu'elle éteint la lumière. Dès que ça commence à chauffer un peu,
la femme
éteint la lumière. Donc, et continue les acrobaties dans le noir. Donc on a des noirs qui se font au milieu des voltiges dans les airs. Donc il y a un côté à la fois effrayant et drôle. Qui accompagne cette scène d'amour. Et en plus, je pense que on aboutit à quelque chose de très sensuel au final. Donc c'est très drôle. Et puis, on accepte quand même cette sensualité au milieu de cette chose très acrobatique.
Est-ce que je pensais à un autre spectacle que vous avez créé là ces dernières années pendant le Covid avec Olivier Martin-Salvant, dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle Les Gros patinent bien, qui se joue encore sans vous maintenant, mais qui continue à se jouer. Là, c'était très différent, mais il y avait quand même une façon avec des cartons, des choses écrites, de détourner aussi un peu la façon dont les êtres échangent entre eux. Et vous avez reçu un Molière pour ce spectacle. Et à ce moment-là, vous aviez interpellé la ministre de la Culture, Katerima Abdul-Malak, et vous lui aviez demandé de faire que le rire soit une cause nationale. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Est-ce que vous avez été entendu?
Ça a marché?
Est-ce que ça a marché? Voilà.
Non, ça n'a pas marché.
Incroyable.
Non, la ministre, donc Rima Abdul-Malak, à l'époque, m'a reçu, etc. On a parlé avec ses conseillers, mais ça n'aboutit sur rien. Elle n'est sans doute pas restée assez longtemps pour que ça puisse se faire. Mais
c'était quoi votre proposition?
Ma proposition, c'était... Alors, en effet, je fais beaucoup de comédies, enfin, beaucoup de spectacles où il y a du rire. Et il y a toujours, très profondément, dans la culture française, dans l'institution, dans les différentes représentations mentales, qu'il y a quelque chose de moins noble.
Ah, tout à fait.
Hein, ouais. Zabou est d'accord, avec dans l'humour. Alors, c'est pas si grave que ça. En fait, on a la chance d'être dans un pays où on a énormément de théâtre dans ce pays. Enfin, on est le pays au monde où il y en a le plus, je pense. Donc, on arrive à tourner dans l'institution, dans des théâtres subventionnés par l'État. On arrive à tourner des spectacles comme Les Gros patinent bien, comme Bigre, énormément. Mais c'est vrai que on a quand même, on sent toujours qu'il y a une petite limite pour être pris au sérieux, comme si cet exercice-là était moins élevé. Et en fait, par exemple, le fait que Les Gros patinent bien soit un spectacle qui tourne autant, je dis, c'est génial qu'on tourne autant, mais en même temps, c'est parce qu'on est peu à le faire.
C'est exactement ça.
Et c'est ça, pour moi, qui est un peu triste. En fait, on devrait être plus, je veux dire, des gens qui travaillent le théâtre, qui travaillent ce qu'ils veulent. Pourquoi ne s'attaquer pas plus à la farce, à la comédie?
Parce qu'ils sont pas drôles.
Non, mais parce que moi je viens vraiment de là, j'ai une culture de théâtre public et je sais ce qu'on m'a inculqué et on m'a inculqué ça, mais de façon inconsciente, que quelque part c'était pas bien et que c'était pas là qu'on allait, que ça allait pas être chic. Ou alors il y a un humour chic, mais c'est encore autre chose, donc qui est cynique et qui est voilà. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais fait cette adresse à la ministre. C'était plus d'un point de vue symbolique, que dans les formations, que dans les conservatoires nationaux, etc., qu'il y ait une place, et en plus, c'est ultra formateur, c'est plus formateur que tout, parce que c'est très compliqué, hein, la comédie, l'humour. Enfin, tout est compliqué. Hein, la tragédie, c'est ultra compliqué aussi. Mais l'humour, c'est juste qu'il y a le verdict du rire. Donc, on sait tout de suite si on l'a fait ou pas. Sur le reste, on a un peu plus de marge de manœuvre.
Ils sont en train de réfléchir. Non, mais c'est suspect quand c'est drôle. C'est pas noble et c'est suspect en France.
Aujourd'hui, vous avez cette sensation-là?
Aujourd'hui, oui. Mais il faut que ça soit. Alors, Zazie dans le métro, ça passe. Voilà. Mais c'est juste de dire qu'on est très peu. Et c'est très, très dommage. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas, ou alors, de toute façon, qui n'ont pas voix au chapitre du théâtre subventionné. Moi, il a fallu pour que j'aille dans le subventionné, vraiment. Ça fait des années, quand même, que je fais des choses, mais c'est pas facile, quoi. Et il faut pas trop faire des trucs drôles. C'est terrible. En France, quelqu'un qui fait rire est suspect. En Angleterre, quelqu'un qui ne fait pas rire est suspect. Mmh. C'est assez étonnant parce que, oui, c'est vrai qu'il y a le verdict est là, et c'est vrai que ça demande une précision diabolique, en fait. Diabolique. Et un devoir de savoir où on est quand on parle de ça. Pourquoi on est drôle. Si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas obligé de le faire avant, hein. On peut le faire après aussi, hein. On n'est pas obligé de se dire oui, alors voilà, je vais faire un truc. Non, il y a quand même toute cette partie instinctive, intuitive, fondamentale, mais rien n'empêche de réfléchir après. Mais il faut absolument que ça soit. Mais j'adore cette idée de dire bon, alors on va faire un. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ça ça pourrait être dans. Je sais pas, dans la loi ou non, rien que ça, c'est bon. C'est pas le résultat qui compte, on va dire. C'est que la démarche, elle est fondamentale. C'est une belle démarche. C'est une démarche de pataphysicien. Voilà, tout à coup, on va dire ah bah tiens. Et si on faisait, c'est tellement joyeux d'avoir des demandes comme ça. Et sont plus importantes que ce dont elles ont l'air. C'est-à-dire que ce sont des demandes qui racontent quelque chose. C'est pas rien de cette demande-là. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Je trouve ça fondamental. Et est-ce que ça va marcher un peu plus? J'en suis pas certaine, mais bon.
Et bon, on a. Vous parlez de l'Angleterre, et en Angleterre, ils ont tué le théâtre, hein, parce qu'il y a quasiment plus de théâtre, parce qu'il y a plus de subventions.
Donc, ils ont rien.
Ils ont vraiment.
Ils sont bons, hein, la vache.
Ils sont bons, mais hélas, la plupart ne font plus ce métier parce qu'ils peuvent plus le faire.
Mais c'est vrai.
Donc en fait, et en France, on a quand même la chance d'avoir encore des subventionneurs, puissance publique globale qui finance encore cela, et donc on peut le faire. Ce travail, mais il n'y en a pas assez qui le font.
Difficile hein, quand les gens proposent des choses drôles et veulent pas. On veut pas. C'est dur, hein, vraiment. Je connais des gens qui proposent des choses et.
Oui, mais je suis pas. Oui, mais tout est dur.
C'est
juste en effet la permission. La permission, ouais. L'autorisation. Et de se dire qu'on peut faire des choses ambitieuses artistiquement, qui est de la poésie, qui est de la métaphysique, et que la comédie n'est pas réservée à une comédie bourgeoise, quoi. Voilà. Et en fait, mais c'est. On va pas parler de ça là, mais c'est toute l'histoire de la construction du théâtre public qui s'est construit contre un certain théâtre bourgeois, qui s'est construit contre l'opérette, etc. Donc il y a eu longtemps comme ça quelque chose de vraiment, c'était maudit quasiment. Donc il y a eu bien sûr le théâtre de l'absurde qui est venu contredire ce que je dis là, mais
c'est pas le même rire. En
c'est... Oui, mais bon, heureusement que ça a été là
bien sûr.
Hein, voilà. Mais bon, je pense que ce sera tout le temps là. Ça fait partie de notre tradition littéraire. Et bien, c'est bon d'avoir ce combat un peu joyeux et faut mordre un peu là-dedans, quoi.
Il faut dire mon cul de temps en temps. Ouais. Pour pas vieillir trop vite.
Et on est content de pouvoir le dire sur France Culture aussi.
Merci beaucoup. Alors, on va retenir le rire comme grande cause nationale. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Dalia.
I love you, Sunny. Thank you for that sunshine bouquet, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me, you all in all. Now I'm feeling fancy. For the from A to Z. My life was torn like we blew sand, and then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true.
Shine so.